bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Il est midi sur Radio Orient, le journal Nadia Bencher. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le ton et la tension n'en finissent pas de monter entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran jure de poursuivre ses frappes aussi longtemps que son pays sera attaqué. Washington et Riyad signent un accord pour développer un programme nucléaire en Arabie Saoudite et construire des centrales dans le royaume. Un accord qui suscite des critiques au Congrès américain. La France enregistre sa troisième vague de chaleur, la plus longue depuis le début des relevés météorologiques. Le pays continue à faire face aux incendies, notamment dans le Var et en Gironde, où des milliers de personnes sont évacuées. Bonjour. D'une nuit à l'autre, les frappes se poursuivent au Proche-Orient pour la 12e nuit consécutive en représailles des bombes américaines. Téhéran attaque les pays alliés de Washington dans la région. L'armée iranienne jure de poursuivre ses frappes aussi longtemps que l'Iran sera attaqué. Aucun signe d'apaisement donc entre les deux pays, voire l'inverse, Clara Dubanché. Un nouveau front semble s'ouvrir dans le conflit au Moyen-Orient.
Effectivement, Nadia, d'un côté, les États-Unis ponctuent les jours et les nuits des Iraniens de frappes visant la ville de Bouchehr, où se trouve la seule centrale nucléaire du pays, ou encore des infrastructures proches du détroit d'Ormuz. Détroit sous blocus maritime, le commandement américain, qui souhaite affaiblir la capacité de menace de cette voie stratégique, informe avoir dérouté 9 navires commerciaux. L'objectif, les empêcher d'entrer dans ou de quitter les ports iraniens. De son côté, l'Iran attaque ses voisins proches des États-Unis. Aujourd'hui encore, Téhéran revendique des frappes de drones au Koweït contre des sites militaires américains. On compte des dépôts de munitions, de logistique ou encore des réservoirs de carburant. En Jordanie, ensuite, les gardiens de la Révolution affirment aussi avoir détruit un système américain Patriot conçu pour intercepter les projectiles balistiques. Et une fois encore, à Bahreïn, les sirènes d'alerte ont retenti ce matin.
Et de nouveaux acteurs, Clara, semblent s'engager dans le conflit depuis quelques jours.
Alliés de l'Iran, les rebelles Houthis du Yémen ont revendiqué des attaques en mer Rouge hier. Attaques contre 2 pétroliers saoudiens, les navires auraient violé le blocus imposé par les Houthis en début de semaine. Car depuis lundi, les rebelles ont adressé plusieurs avertissements radio aux navires qui ne prendraient pas leurs menaces au sérieux. Ces attaques étant donc le théâtre de cette guerre au Moyen-Orient, aggravée notamment par la prise à partie du pays médiateur qu'est l'Arabie Saoudite.
Merci Clara pour ces précisions. Les deux diplomates français agressés dimanche à Téhéran sont rentrés mercredi à Paris et ne souhaitent pas retourner en Iran. Selon Jean-Noël Barrot, ils ont été brutalement interpellés dans un lieu privé par des agents de sécurité iraniens en raison de leur mission de soutien à la société civile. Une version démentie par Téhéran qui affirme qu'ils ont simplement été brièvement interrogés après une réunion avec des personnes recherchées par les autorités. Une affaire qui ne pourra rester sans conséquence, prévient le ministre français des Affaires étrangères. Il était invité ce matin chez nos confrères de France Inter.
Ils sont rentrés à Paris hier et ils sont entourés de tout le soutien nécessaire après cette agression extrêmement grave, c'est vrai, et préméditée dont ils ont été les victimes. Ils continueront d'exercer leur mission jusqu'à son terme, mais depuis Paris. C'est leur souhait, évidemment. Ils sont sous le choc après avoir été brutalement interpellés dans un lieu privé par des officiers de sécurité du régime, après avoir été détenus pendant près de 4 heures, sans accès à leurs moyens de communication, sans pouvoir contacter l'ambassade, en étant intimidés et, pour l'un d'entre eux, en étant violemment pris à partie.
Vous avez dit cette atteinte gravissime et inadmissible à l'intégrité de nos agents ne pourra rester sans conséquence, je vous cite. Donc, on en est où ce matin?
Il est évident qu'elle ne pourra rester sans conséquence, puisque d'abord elle est illégale et qu'en plus elle est inqualifiable. Et nous évaluons aujourd'hui toutes les options que nous avons pour y répondre.
Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française. Les États-Unis ont annoncé un accord avec l'Arabie Saoudite pour développer un programme nucléaire civil et permettre la construction de centrales dans le royaume. Washington assure que le partenariat prévoit des garanties strictes contre la prolifération nucléaire. Selon le Wall Street Journal, un complexe d'enrichissement d'uranium pourrait toutefois être construit si une étude conjointe le justifie. L'accord suscite des critiques au Congrès américain et des inquiétudes en Israël sur les risques d'une course à l'armement nucléaire dans la région. Une annonce qui intervient en plein conflit entre les États-Unis et l'Iran, dont le programme nucléaire est au cœur des tensions. Sergueï Lavrov a mis en garde son homologue américain Marco Rubio contre la poursuite jugée inadmissible des livraisons d'armes à l'Ukraine. Lors de leur rencontre à Mani, en marge de la réunion de l'ASEAN, le chef de la diplomatie russe a également affirmé que Moscou restait prêt à un règlement politique et diplomatique du conflit. Les pays de l'Union européenne ont trouvé un accord sur un 21e paquet de sanctions contre la Russie. Il prévoit notamment de prolonger d'un an le plafonnement à $44 du prix du baril de pétrole russe exporté, ainsi que de nouvelles mesures visant le secteur financier, les crypto-monnaies et la flotte fantôme de Moscou. Direction à présent le Maghreb pour faire le point sur les incendies qui sévissent dans de nombreuses régions. En Algérie, les incendies qui ravagent depuis une dizaine de jours plusieurs régions du nord du pays ont fait 6 morts selon les autorités. Dans la wilaya d'Annaba particulièrement touchée, plus d'une centaine de personnes ont été évacuées et près de 150 habitations endommagées. Au Maroc, près de 628 hectares ont été ravagés par d'importants incendies de forêt en l'espace d'une semaine. Plusieurs régions du royaume ont été touchées par ces feux dans un contexte de forte chaleur et de risques élevés d'incendies. Et puis en Tunisie, 90 incendies de forêt ont été recensés entre le 11 et le 22 juillet, favorisés par une vague de chaleur exceptionnelle. Selon la protection civile, 77 feux ont été maîtrisés, 10 sont en phase de refroidissement et 3 restent actifs. Aucune perte humaine n'est à déplorer. La France est également confrontée à une saison des incendies particulièrement précoce dans un contexte de forte chaleur. Le pays vient d'ailleurs d'enregistrer sa 3e vague de chaleur, la plus longue depuis le début des relevés météorologiques, avec 16 jours consécutifs entre le 4 et le 19 juillet. Une sécheresse persistante, des températures élevées et le vent créent des conditions propices à la propagation des feux. Les précisions avec vous, Salma Darlaoui.
Oui, Nadia, en Gironde, au nord du bassin d'Arcachon, l'incendie est toujours en cours. Il a déjà parcouru 2400 hectares de végétation. Près de 12 000 habitants et touristes ont été évacués par mesure de précaution. Pour l'heure, aucune victime ni habitation détruite n'est recensée, mais la situation reste jugée défavorable par les autorités. Le feu progresse en direction de Lège-Cap-Ferré, où les sapeurs-pompiers poursuivent leur lutte pour contenir les flammes et protéger les zones habitées. Dans le Var, le violent incendie qui s'est déclaré mardi près de Pont-Évès a parcouru 2550 hectares en moins de 24 heures. Le feu est désormais contenu dans son périmètre, mais il n'est toujours pas fixé. Les secours ont consacré la nuit à l'extinction de nombreux points chauds afin d'éviter toute reprise. Les autorités restent particulièrement vigilantes avec le retour attendu du Mistral ce jeudi après-midi, accompagné de rafales pouvant atteindre 60 km par heure, ainsi que de nouvelles températures élevées. Environ 500 personnes ont été évacuées dans les communes de Cotignac, Corrence et Montfort-sur-Argent. Les habitants ont toutefois été autorisés à regagner leur domicile afin d'évaluer les dégâts. Selon un premier bilan, une soixantaine d'habitations a été touchée, dont 10 maisons entièrement détruites. Plusieurs centaines d'autres ont pu être sauvées grâce à l'intervention rapide des secours. Les deux sites religieux de Cotignac, le sanctuaire Notre-Dame et le monastère Saint-Joseph ont également été épargnés. Aucune victime n'est à déplorer, hormis 4 intoxications par les fumées, dont 2 pompiers. Les moyens déployés restent considérables. Dans le Var, 1100 sapeurs-pompiers, 350 engins, des
hélicoptères bombardiers d'eau, deux Canadair et deux avions Dash sont toujours mobilisés pour fixer définitivement l'incendie avant le renforcement du vent. En Gironde, les équipes de secours poursuivent également leurs opérations afin de protéger les populations, les habitations et les massifs forestiers menacés. Le gouvernement prévoit par ailleurs de renforcer prochainement son dispositif aérien. Depuis le début de l'année, près de 40 000 hectares sont déjà partis en fumée en France. Un bilan supérieur à la totalité des surfaces brûlées sur l'ensemble de l'année dernière, selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Merci Salma pour ce point situation. Et alors que les incendies mobilisent d'importants moyens terrestres et aériens, Roland Lescure était ce matin l'invité de nos confrères de France Info. Il est revenu sur le dispositif mis en place pour faire face au feu. On écoute le ministre des Finances et de l'Économie.
On a mis beaucoup. Ces dernières années, c'est 850 millions d'euros de plus dédié à la sécurité civile, notamment la commande d'hélicoptères, d'avions. On a encore commandé deux Canadair nouveaux cette année. Je pense qu'on a, je le répète, engagé des mouvements historiques, des montants historiques, pardon, depuis 2023. La réalité, c'est que les Canadair et l'entreprise qui les produit étaient plutôt en sommeil, avaient ralenti nettement la production et qu'il a fallu accélérer. Et que malheureusement, ces feux de forêt, ces feux en général, d'ailleurs, ils ne sont pas présents seulement en France. Il y a des méga incendies au Canada, il y en a d'autres ailleurs en Europe, et que la demande est très forte. Le sujet, c'est pas où on les produit. Ce sont pas des engins, je dirais, stratégiques liés à la sécurité nationale. Il faut surtout qu'on puisse investir dans les capacités de production, qu'elles soient ici ou aujourd'hui, ils sont produits au Canada. On n'a pas de problème de souveraineté avec nos amis canadiens, avec lesquels on commerce de manière extrêmement efficace. Non, la réalité aujourd'hui, c'est que il faut un arsenal global. La prévention, mais la lutte contre le réchauffement climatique, la prévention des incendies, la culture et l'éducation de nos concitoyens pour éviter les départs de feu, c'est quand même la meilleure manière d'éviter les incendies, c'est qu'ils ne partent pas. Et puis, s'assurer que les sapeurs-pompiers ont les moyens, ils l'ont, il faut continuer à investir, c'est sûr. Il faut aussi, c'est un point important, parce que beaucoup des sapeurs-pompiers sont volontaires, que les entreprises s'engagent à les libérer. Quand
justement,
un sapeur-pompier vous demande d'être libéré, en général, c'est pour une bonne raison. En tout
entendu.
Cas, nous l'avons relayé, il oui. est très largement entendu. Il y a parfois, ici ou là, des entreprises qui rechignent un peu, mais globalement, c'est une cause nationale.
Roland Lescure, ministre des Finances et de l'Économie. L'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants restent encore insuffisamment pris en compte par les politiques publiques. C'est l'un des constats dressés par le député Christian Baptiste qui a récemment présenté les conclusions de la commission d'enquête consacrée à l'inceste et formulé 49 recommandations parmi les priorités: mieux protéger les enfants, renforcer la prise en compte de leurs paroles et celle du parent protecteur. Christian Baptiste revient sur ce qu'il a particulièrement marqué au cours des travaux de la commission.
Beaucoup de choses m'ont surpris. La première, c'est qu'il n'y a pas de politique publique à part entière concernant l'inceste parental. Nous avons attentivement entendu l'ensemble des acteurs, que ce soit de la santé, que ce soit des psychologues ou encore même aussi des associations, des victimes, pour que l'enfant puisse être protégé véritablement, évidemment par le système judiciaire, mais aussi l'écoute de sa parole et le parent aussi protecteur qui assez souvent signale quand l'enfant est en danger et surtout que cet enfant ne puisse pas retourner entre les mains de son abuseur.
Ah, vous le dites, hein, il faut que l'un des deux parents signale cela. Or, parfois, cela se fait dans des conditions lors desquelles l'enfant n'est pas forcément apte à parler et il n'y a pas d'autres parents pour signaler. Ça, c'est quelque chose que vous prenez en considération. Comment, justement, lutter contre cela?
Mais justement, vous le dites, hein, il y a des enfants qui ne sont pas aptes à parler. Et une des choses qui m'ont vraiment surpris dans cette commission, c'est l'inceste des nourrissons. Des enfants de moins de 2 ans, effectivement, qui n'ont pas effectivement cette possibilité de parler. Mais d'une manière générale...
Vous dites, c'est important, hein, l'inceste des nourrissons, cela existe. Et dans quelle ampleur?
Tout à fait. Mais dans une ampleur beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Il y a même des pédocriminels, avec des images justement d'enfants qui sont incestés, des nourrissons qui sont incestés. Comment arriver à cela?
Il y a des nourrissons victimes de violences sexuelles?
Tout à fait, il y a des nourrissons victimes de violences sexuelles et avec des certificats médicaux qui l'attestent. Donc c'est extrêmement grave. Et c'est bien pour cela que nous disons que l'ensemble de la chaîne qui traite signalement d'inceste, le traitement judiciaire et notamment les enquêtes, eh bien qu'ils soient formés. Formés d'abord à l'écoute de la parole de l'enfant, et pas une formation rapide, mais aussi formés pour pouvoir, que ce soit les magistrats, mais aussi les enquêteurs, c'est-à-dire au niveau de la police, de la gendarmerie. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et surtout, la protection de l'enfant. Nous, les principales préconisations, c'est de dire, une fois qu'il y a un signalement d'un enfant incesté, il faut tout de suite qu'il y ait une ordonnance de protection pour faire en sorte que le parent abuseur ne puisse pas avoir l'autorité parentale, qu'il y ait une suspension provisoire de cette autorité parentale.
Le député Christian Baptiste au micro de François-Xavier de Calonne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci à Mohamed El Bezri pour la réalisation. Excellente suite de programmes sur Radio Orient.